Merci Aurélien.
Merci.
Je lance pour la première fois le format Escale au bateau Yves. Donc qu'est-ce que c'est ? L'idée d'Escale au bateau Yves, ce sera d'inviter des artistes qui comptent, des artistes importants de la scène nationale au bateau Yves, pour qu'ils puissent donner des masterclass et revenir sur la manière dont ils créent leurs œuvres, composent, etc. Et l'entretien donnera lieu à un podcast accessible en ligne et sur le site des Amis du bateau Yves. Donc ce soir, c'est enregistré, la salle également, et ce sera accessible très prochainement sur le site. Et l'idée, c'est d'avoir comme ça une collection de podcasts, de masterclass, d'invités qui viendront à la maison. Puisque moi, ce qui me tenait à cœur, c'est que ce lieu, il soit culturel, soit un lieu d'exposition, mais c'était au départ une maison. Et qu'on retrouve l'intimité, la chaleur de cette maison. Donc, c'est pour ça que je me plais à imaginer des artistes dans le jardin qui donnent ces masterclass ou à côté de la cheminée. Et pour cette première, je suis très heureux d'accueillir un artiste que j'admire beaucoup. Il a sans hésiter accepté mon invitation et je t'en remercie vraiment. Donc Aurélien Bélanger, c'est un écrivain qui a publié 7 romans de 2012 à 2024, enfin même 2010, il faudrait dire, puisqu'ici j'ai le livre sur Houellebecq, chez Gallimard hier, puis au Seuil aujourd'hui. Tu as également été chroniqueur dans les matinales de France Culture ou à la télévision sur Canal+. Acteur, voire même un petit bout de réalisateur, avec Justine Triet dans un documentaire, un des premiers documentaires, ou acteur chez Nicolas Pariset. Il a eu déjà 1000 vies et n'a que 44 ans. Merci beaucoup, Aurélien, d'être avec nous. On a 30 minutes pour parler de ton œuvre, de ta création. Et puis après, je laisserai 10-15 minutes à la salle si vous avez des questions avant une petite entracte, avant le film. Donc déjà, difficile pour moi de condenser ton œuvre en 30 minutes, parce que si vous connaissez, avez un peu lu les livres d'Aurélien, ou si ce n'est pas fait, je vous enjoins à le faire grâce à la présence du marque-page, qui a gentiment aidé à la réalisation de cette soirée. Tes livres, ils sont denses, touffus, complexes, ce qui échappe le plus souvent à une réduction possible dans telle ou telle case. Néanmoins, je vais essayer. On t'a souvent décrit comme le nouveau Balzac, et je crois que c'est une porte d'entrée intéressante pour entrer dans ton univers littéraire Diapo 5. Donc j'ai réuni les trois romans. Des fois Aurélien parle de ces trois romans comme, on va en y revenir, de sa première trilogie. Ils permettent de comprendre le monde autour de nous en mettant en scène tes contemporains et les objets qui nous entourent. Donc le premier roman qu'a fait Aurélien, La théorie de l'information en 2012, c'était quel objet ? C'était le Minitel, que certains dans cette salle ont connu, pas moi, mais à travers l'itinéraire d'un personnage, Pascal Ertanger, très librement inspiré de la vie du fondateur de Free, qui est en photo, Xavier Niel. Biographie fictionnelle mêlée à des pages de vulgarisation de la théorie de l'information, d'où le titre du livre. Cette théorie, on la doit au mathématicien Claude Shannon. Ensuite, 2014... deuxième roman pour Aurélien, L'aménagement du territoire, un roman qui a été salué par le prix de Flore. Et là, quel objet ? Le TGV. Et là, c'est un roman sur des dynasties familiales avec une famille Tolpin, inspirée de la famille Bouygues, en Mayenne, dans un village appelé Argel. Et enfin, 2017, troisième roman. Et là, troisième objet mythologique, Le Grand Paris Express et les dessous du cabinet politique de Nicolas Sarkozy. Dans lequel tu, à travers la vie d'Alexandre Belgrand, tu racontes un jeune homme qui va partir de rien jusqu'à devenir un des plus proches de celui que tu appelles le prince. Le prince, c'est Nicolas Sarkozy. Donc ici, on a envoyé trois objets au cœur du roman à travers trois itinéraires singuliers, trois itinéraires de personnages. Donc Aurélien, ma question, enfin. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir mettre en scène des personnages que le lecteur pourra reconnaître et des bouts de l'histoire contemporaine ? Est-ce que, comme Balzac, tu souhaites analyser la société ?
Oui. Non, le point de départ, c'est essayer de comprendre. Et j'aime bien écrire des romans sur des domaines qui me semblent pertinents et auxquels je ne comprends pas. Et c'est comme si, au final, le lecteur allait me rejoindre, on allait comprendre et on allait comprendre ensemble. Et j'ai une sorte de défaut qui est une qualité romanesque, c'est que je déteste les explications toutes faites. C'est-à-dire que je ne vais pas... Je veux vraiment comprendre moi-même. Donc la théorie de l'information de Claude Shannon, j'aurais pu mettre des brèves, expliquer ce que c'est en lisant des choses sur ce que c'est, mais j'ai voulu que le livre reflète ma propre compréhension évidemment tronqué de la théorie de l'information, parce que je ne suis ni mathématicien ni physicien. Et pareil, l'aménagement du territoire. Je n'ai pas lu le manuel d'aménagement du territoire. J'ai essayé de façon hyper empirique, en croisant souvenirs d'enfance chopés par la fenêtre d'une BX sur l'autoroute, à des visions de cartes comme ça, et pour essayer de reconstituer une connaissance qui soit la plus naïve et la plus fraîche possible. Alors, il y a un jeu, ça a un côté un peu sérieux, titre de que sais-je, etc. Mais en vrai, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le chemin vers la compréhension et essayer de vaincre cette souffrance, parce que je pense que c'est vraiment une souffrance de ne pas comprendre. Donc, le livre est un... Alors, c'est bizarre de présenter comme ça, le livre est un objet de connaissance. Et on me dit, oui, alors, dans ce cas-là, pourquoi ne pas écrire des essais? Bah, parce que je pense que le roman est un meilleur véhicule de connaissance que l'essai. Ensuite, la référence à des histoires communes. Moi, j'avais été très marqué. J'aime beaucoup les émissions un peu rétrospectives, genre La vie des chanteurs décédés, Laurent Delahousse raconte le jour clé où a basculé le destin de Claude François, des choses comme ça. J'aime bien cette histoire un peu populaire, mais qui nous parle de figures qu'on a tous connues et dont on n'a pas spontanément pensé qu'elles étaient de très haute valeur. Alors, le coup de génie initial, ça a été de partir sur le Minitel, parce que le Minitel, donc terminal, coup de génie français, oublié, relégué dans le fond des placards et totalement disparu. Et c'était à la fois un objet qui parlait très fort à la mémoire commune des gens de ma génération et de la génération avant moi, et qui avait totalement disparu. Et donc, j'ai essayé à chaque fois de prendre des objets ou des personnages qui semblaient... Par exemple, raconter, tu disais, je m'inspire de la famille Bouygues. Bouygues, on voit ce que c'est. On voit des chantiers Bouygues, on voit des couleurs Bouygues, on sait des choses sur Bouygues, que Bouygues possède TF1, que Bouygues a été important, etc. Et ça suffit pour broder. Alors, idéalement, ça m'attribue un rôle bizarre en tant que romancier. Je serais le vieux type barbu qui débarquerait à la veillée pour raconter des légendes. Et j'aime bien l'idée que le monde contemporain fonctionne encore sur un réseau de légendes ou qu'on peut appeler... de mythologie. En tout cas, c'est très proche, de la façon dont il nous est apparu enfant. C'est-à-dire que rétrospectivement, tout nous paraît rationnel. Enfant, la moindre chose nous semblait énorme, gigantesque et porteuse de en fait, étant en soi fantastique. Voilà, une autoroute est fantastique, une ville est fantastique, et donc le livre essaie de retranscrire ce sentiment lié à l'enfance et à l'apparition de ce que j'appelle des gros objets ou des mythologies et de le raconter de façon quand même un peu critique, parce qu'il s'agit pas d'être dans l'adoration. Il y a quand même un regard de déconstruction.
Oui, et est-ce que tu pourrais expliquer ton rapport justement aux années 80-90 qui, je crois, sont très importantes comme objets mythologiques, justement parce que c'est à la fois l'apogée de la Ve République et aussi là que tu peux arriver à attraper la fin de quelque chose, la fin d'une époque, une économie avec ces objets. Par exemple, le Minitel, c'est un objet qui a un début, un milieu et une fin.
Oui, absolument. Alors, j'ai mis longtemps à comprendre ce qui m'intéressait autant dans les années 80 et... Les années 70 finissent assez mal, enfin, commencent avec le choc pétrolier et en fait, la croyance infinie au progrès... Bon, alors, si on enlève... Je suis un peu épineux si on enlève la question des guerres mondiales, mais la croyance infinie au progrès technologique, elle est très érodée à la fin des années 70. On pense au rapport du Club de Rome sur l'explosion de la démographie, etc. Enfin, il y a un pessimisme ambiant qui s'incarne dans la contre-culture dominante des années 70, qui sont une décennie très contestataire. Et bizarrement, les années 80 apparaissent presque comme l'antithèse de ça. On repart à zéro et sort de petit enchantement. Mais à hauteur de chambre d'enfant, c'est-à-dire on va fabriquer des fusées. Puis la fusée, en fait, je la connaissais parce que je l'avais fabriquée en découpage dans mon magazine pour enfants Astrapi. Il y avait le côté c'est le futur, mais c'est un futur, pas un rétro-futur, mais c'est un futur bizarre qui est un futur. La meilleure image qu'on puisse en trouver, je pense, c'est les projections qu'on voyait dans les films des années 80, spécialement les films de Spielberg, des chambres d'adolescents américains. Ils étaient plus riches que nous, donc ils avaient des chambres un peu plus cool que nous, et leurs chambres étaient bardées de gadgets électroniques à gogo. Voilà. Et cette espèce d'idée que le capitalisme et la civilisation technique vieillissante, avant d'entrer dans une crise compliquée, avaient eu la vertu de rentrer dans une chambre d'enfant. Et c'est amusant, parce que je lisais un livre d'un géographe sur la question... va dire grosso modo, du démembrement des États-nations par l'apparition d'entités néo-capitalistes. Et ce géographe expliquait que l'incroyable décollage économique de Hong Kong était lié, la première industrie qui a adopté Hong Kong, c'est la fabrication de jouets en plastique. Et donc ces jouets en plastique qui m'apparaissaient, parce que c'est vraiment les années Playmobil, les années Lego dont je parle, les années 80-90, c'est vraiment l'apparition vraiment d'une culture quasiment enfantine. Et ben en fait, c'était pas du tout métaphorique que ça racontait l'état du monde. Dans un moment, les mutations capitalistiques sont rentrées dans le 21e siècle en empruntant le trajet extrêmement bizarre d'une chambre d'enfant. Donc tout ça fait qu'une sorte de relecture critique, alors en parallèle, il y a d'autres mythologies, il y a les grands travaux mitterrandiens, enfin voilà, il y a tout un répertoire de stock. Alors le bol, c'est que j'avais entre 6 et 10 ans pour m'en souvenir, donc ça marche très bien, et puis c'était avant la chute de l'URSS, enfin voilà, c'est tout un monde un peu vieillot, bizarre. C'est un répertoire à disposition qui est marrant à réutiliser, en se souvenant bien que c'était une anomalie du temps. Et c'est vrai que moi, je me souviens des années 80-90, je l'avais raconté dans une pièce de théâtre qui s'appelle Eurodance, c'est les grandes autoroutes bleutées avec des lampes très bleues, très froides, où on écoute de l'Eurodance dans un monde futuriste très glacé. C'est la configuration. On est entré dans l'an 2000 dans un état de transe bizarre que j'essayais de retranscrire. J'aimerais bien écrire un jour un livre sur la musique techno, par exemple, qui est très proche, qui est une musique dont je retiens le caractère d'incroyable solennité. Il y avait quelque chose de solennel dans cette préparation à l'an 2000 qui esthétiquement m'intéresse.
Et moi, je voulais... C'est une masterclass, donc on essaie de comprendre un petit peu comment tu écris tes livres dans Le Grand Paris, que je trouve très, très... C'est un roman très réussi que je vous invite à lire. Il y a une partie, donc la seconde partie, qui est plutôt centrée... Sarkozy célèbre sa victoire au Phuket. Et le personnage, Alexandre, entre dans les cabinets de conseil. Donc on reconnaît un Henri Guénaud sous les traits de, j'ai oublié le nom, d'emprunt. Et puis voilà, il y a un mélange. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que tu constitues ce bestiaire politique, cet imaginaire, pour que ce soit aussi drôle, aussi satirique, aussi réussi ?
Essentiellement de mémoire, c'est-à-dire que je me documente pas très bien, mais je travaille sur une matière que je connais, donc les années Sarkozy, j'y étais, enfin je me souviens des figures, je me souviens on se rappelle alors de la vie politique, on se souvient beaucoup des scandales, par exemple, là je me rappelle de tel ou tel scandale, et d'idées comme ça, par exemple, à un moment il y a tout un chapitre où Paris se révèle incroyablement jalouse de Londres, parce qu'à Londres, on construit des gratte-ciels, et puis à Paris, on ne construit pas de gratte-ciels. Et ben, c'était amusant de le mettre en scène, indépendamment du fait que ce soit vrai ou pas. Et puis en tirant un petit peu les ficelles, on découvre que, ah oui, l'idée de faire un métro automatique de Tour de Paris, c'est sans doute une réponse à cette espèce de proto-mondialisation qu'on voyait poindre à l'Orient. On voyait que d'un coup, c'était la Chine qui produisait des gratte-ciels ou Dubaï et plus la vieille Europe, ni même l'Amérique. Donc ça permet de... Après, je vérifie toujours, hein, c'est-à-dire je pars d'une intuition et puis après je vérifie que c'est les bons personnages, c'est les bonnes dates et qu'ils ont à peu près dit ça. Mais par exemple, je me souviens, Sarkozy avait fait un discours qui était un discours très bizarre à la Cité de l'Architecture. Après, j'ai rencontré l'auteur du discours, j'ai rencontré les architectes qui m'en ont parlé, etc. Mais ce discours, il était bizarre parce que il y avait un côté exaltation. Enfin, c'était vraiment le nœud de la légende sarkozienne, c'est exaltation d'un moment déjà très lointain du libéralisme français et de la droite française qui s'est dit maintenant on peut y aller, on peut moderniser, etc. Et rétrospectivement, la promesse de modernisation plus tardive des années Macron, elle est déjà intégralement contenue dans ce discours à la Cité de l'Architecture où grosso modo...
Qui annonce le Grand Paris Express.
Voilà, un petit ambitieux, un petit ambitieux de droite, conservateur, dit que nous sommes encore une civilisation magnifique, on peut encore construire la plus belle ville du monde, etc. Et bizarrement, ça a pris sur les architectes, ça a marché, et puis bon, derrière, il y avait des gros projets, ce gros projet de métro. Mais par exemple, j'en parle, ce discours, je ne l'ai pas relu. Voilà, faudrait que je vérifie, peut-être que machin, mais je préfère l'idée, je me souviens que ça avait un peu bruissé dans la presse, et il y a eu une petite vague d'enthousiasme autour de cette chose. Et c'est un objet suffisant pour construire un livre.
Et la question aussi, tu m'as tendu la perche, c'était donc Xavier Niel est l'objet de la théorie, Nicolas Sarkozy. Par exemple, Xavier Niel, enfin Pascal Ertanger, qui n'est pas Xavier Niel, mais inspiré de la vie des débuts de Xavier Niel, notamment toutes les affaires avec les pipe-shows, etc., à Paris. Et ça, Aurélien l'a mis en scène dans son premier livre, ce qui était très drôle et aussi à la fois aussi dangereux, bah, pour Xavier Niel est quelqu'un de puissant. Comment ça se passe? Par exemple, je crois que tu as rencontré Xavier Niel. Comment ça se passe quand tu l'as? Est-ce qu'il a lu tes livres? Est-ce
Ah oui,
que
c'est
les
bah...
personnalités historiques qui sont dans tes romans, comment ça se passe quand elles te rencontrent?
Bah déjà, il y a une relecture juridique à chaque fois, un peu carré. Et on me fait changer des choses assez inattendues. Par exemple, le personnage, par leur dire qu'il est ivre, parce que ça pourrait être considéré comme une vision dégradante du personnage. Donc j'enlève. À un moment, il y a par exemple Thierry Breton qui fait une grande dissertation à l'époque où Thierry Breton, vieille époque, dirigeait le Futuroscope. Il fait une vieille dissertation sur la théorie de l'information, etc., le futur des technologies. Et il est ivre. Bon, bah, j'ai gardé la dissertation, j'ai enlevé. Alors que pour moi, ce qui est grave, enfin, ce qui est délirant, c'est pas qu'il soit ivre, c'était ce qu'il disait. Et donc voilà, il y a des petits ajustements comme ça. Et Xavier Niel, je l'ai rencontré totalement par hasard. Enfin, j'étais une sorte de fête organisée autour de l'école qu'il lançait. Un copain m'avait proposé de passer. Et il me serre les mains en plissant les yeux comme ça. Et il me dit, ah, c'est vous! Je vais vous envoyer mes avocats. Donc c'était rigolo, mais c'était une pure intimidation.
Ah oui.
Non, mais c'était une intimidation fictive. Mais il y avait un côté, ah tiens, j'avais pas vu cet aspect chez lui. Et pour l'anecdote, c'est bête, parce que j'ai compris pourquoi il était devenu milliardaire à ce moment-là. J'ai pas pu le mettre dans le livre, parce que c'était 5 ou 6 ans après son écriture. C'est que donc je visite l'école 42 qu'il a ouvert, et la personne qui me fait visiter m'explique que bon, il y a un problème, il y a 80% de garçons, 20% de filles. Et donc je le croise, ah, ben ouais, il est très content, donc on discute, très content de son école. Il dit oui, on est à 60% de filles, et tout, en plus. Enfin, je dis bah non, enfin, un peu moins quand même. Je dis oui, mais on va y arriver. Et je me souvenais, parce que moi j'avais un forfait Free Mobile, c'est exactement comme il allait à la télé dire Free Mobile ça marche très bien, et moi j'avais mon téléphone dans la main, j'ai aucun bâton, je disais mais non, ça marche pas du tout très bien. Je dis mais c'est ça en fait, un milliardaire
D'ailleurs,
c'est
si je t'ai
quelqu'un.
appelé,
Alors, et en
hier,
plus
ça
ça s'est
marchait pas.
voilà, ça s'est réeffondré en plus. Je me suis dit voilà, ça c'est une clé marrante, c'est quelqu'un, bah, il m'a parlé comme il parlerait à son banquier, voilà, il croit lui-même à son propre mensonge, il pense que son mensonge. Que son mensonge va devenir vrai. Bon, après, le personnage est connu, hein, le grand archétype, ce serait Bernard Tapie. Moi, je n'ai pas travaillé directement sur Bernard Tapie, j'avais un vague projet à un moment, mais c'était amusant de retrouver un peu de cette énergie-là chez Xavier Niel. Mais c'est bizarre, alors, c'était ma première attachée de presse, était tout le temps contactée par des gens qui étaient dans mon bouquin, qui voulaient avoir les bouquins. Et je n'avais pas pensé, en fait. Bon, il y avait un côté, j'étais au chômage, j'étais derrière mon ordi, j'écrivais mon bouquin. C'était pas un truc de vengeance, mais c'était marrant de mettre des personnages réels et de me moquer un petit peu d'eux. Et j'avais pas du tout pensé à que ça aurait un impact sur la réalité.
Et c'est Le Continent de la douceur que je vois là, qui est un roman postérieur, dans lequel c'est génial. Il y a du coup Bernard-Henri Lévy
Ah
dedans,
bah,
c'est QPV.
coup de génie de l'équipe Folio.
Et donc Bernard-Henri Lévy, qui est un célèbre intellectuel, et donc dont il a, à partir de la page 400 jusqu'à la fin, c'est quand même un portrait à charge, un portrait satirique. Et il écrit, c'est lui qui est derrière la page de couverture, l'un des meilleurs livres de la rentrée. Donc il l'a vachement bien pris.
J'étais trop content et c'était en plus, c'était une idée de génie de l'équipe Folio. Il m'avait demandé si je validais. J'ai dit, mais oui, c'est trop rigolo, quoi. Et pareil, non, mais ce qui est amusant, bah, c'est que là, une fois de plus, je l'ai rencontré. Alors c'est assez marrant, je suis très content de rencontrer les personnages après, parce que comme ça, ils m'influencent en rien. Donc je l'ai rencontré après et j'ai découvert qu'il avait un appartement qui avait une vue plongeante sur l'Élysée. Un appartement, je trouve ça génial, quoi. Son appartement est un peu au-dessus de l'Élysée. On s'est beaucoup moqué des talonnettes de Sarkozy, mais cet homme habite dans une talonnette immobilière et c'est presque encore plus drôle. Ouais.
Allez, un saut dans le temps, 2021. Donc tu sors ce roman télé-réalité. Je voulais en parler parce que récemment, la série culte, ça a été un phénomène. Série qui est disponible sur Prime Video. Tu as été pour moi l'un des premiers à faire de la télé-réalité, en fait, un sujet de fiction dans ce livre. Donc qu'est-ce qui te fascine dans la télévision de manière plus générale? Et je t'ai mis en photo, là, tu es chez Mouloud Achour.
Alors, les cinéphiles ici se souviennent peut-être d'un des derniers films de ce grand réalisateur portugais dont j'oublie le nom, qui n'est pas Manuel de Oliveira, mais l'autre. C'était une histoire, en fait, l'histoire était entrecoupée, il y avait une histoire très feuilletonesque et c'était entrecoupé d'un enfant qui jouait avec une boîte, enfin une sorte de maison en papier, en fait, qui agitait des petites marionnettes dans une maison, et c'était sublime. Et il y avait un côté, mais en fait, le cinéma était voué à fabriquer une maison en papier, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, cette maison en papier, on l'a tous eue, ça a été la télé. Et je me suis souvenu que la télé, alors qu'elle était en train, pas de disparaître, mais de muter, de changer d'écran, etc., nous avons tous eu chez nous, parfois sur le frigo, ou à des endroits les plus improbables, une boîte à chaussures dans laquelle des images étaient animées. Et ce qui m'a intéressé, c'était l'incroyable soin qu'avait été apporté à la réalisation des décors, à la réalisation des dramaturgies, etc.
Du loft, tu veux dire ?
De la télé en général.
La télé en général.
Voilà. Alors, le loft, c'était... en fait, la télé a été un art naïf gigantesque dans lequel on a englouti des milliards et on a vraiment fabriqué... La seule comparaison, c'est les églises. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas très cultivé en catholicisme, il voit 100 églises, c'est toujours pareil. Eh ben, je pense que quelqu'un qui n'est pas cultivé en télé, il ne voit pas la différence entre une émission de Lagaffe et une émission d'Arthur. Ben, quelqu'un qui a une culture télé, et il se trouve que ma génération est vraiment la dernière génération à avoir une incroyable culture télé. C'est-à-dire que moi, Internet arrive, j'ai 18 ans. Donc ma formation à l'image, c'est strictement la télévision, point. Et cette acuité visuelle est incroyable. Et ça disparaît d'un coup, donc ça va disparaître. Mais avant de disparaître, la télé a fabriqué une forme d'art qui lui est propre. Et c'est un peu l'hypothèse du bouquin. Cette forme d'art qui lui est propre, c'est la télé-réalité. La télé-réalité fonctionnant sur... On a beaucoup parlé d'expérience claustrale, etc. Il me semble que c'est le plus important dans la télé-réalité, c'est plutôt la tournure du confessionnal où les personnes face caméra viennent expliquer, commenter l'action en direct. Et il me semble que va se jouer un changement dans notre rapport à la subjectivité qui va annoncer le selfie. Faire un selfie, c'est aujourd'hui un geste aussi anodin que... Enfin, c'est un geste totalement anodin. Il y a 15 ans, 20 ans, quand sont arrivés les premiers selfies, les gens disaient ils sont très narcissiques, ils font des selfies, etc. Il me semble que la télé-réalité a été le moment où cette nouvelle subjectivité est apparue. Et je trouvais ça très beau d'analyser un art sur le point de mourir, qui en plus n'a jamais été considéré comme un art. Et in extremis, il accouche d'un chef-d'œuvre, qui est la télé-réalité.
Parce que ce soir, je les salue d'ailleurs, il y a la terminale option Histoire des Arts de Madame Arnold et Madame Viat qui sont présents, avec qui on va travailler sur le bateau ivre donc du lycée de Saint-Marcellin. Et je ne sais pas si vous confirmez les terminales, mais vous ne regardez plus la télé. Et non, vous êtes sur Snapchat et sur TikTok, voilà. Parce que, s'il faut dire pourquoi, c'est un média mort, quoi. Parce que par contre, je pense que les autres dans la salle, vous regardez encore la télé. Oui. Là, il y a une barrière générationnelle. Pour la télé-réalité, alors, j'aimerais bien que tu nous lises. Moi, j'aime bien le début. Alors, je ne vais pas être cuistre, on dit l'incipit, mais on ne va pas utiliser ce mot latin. La première page du roman télé-réalité que j'aime beaucoup. Est-ce que tu accepterais de nous le lire ?
Bien sûr, j'ai totalement oublié comment ça commençait.
Tu t'en rappelleras.
Ah, très beau début. Sur des fragments de faïence, des danseurs, nymphes, divinités et faunes achèvent, immobiles, leur procession silencieuse. Un jeune homme observe un flacon de verre, une jeune fille tend l'oreille, un Adonis révèle un secret à des convives attablés. Une créature courroucée brise un cratère, un Apollon s'ébat dans une citerne. Une moire assise songe à son destin, un éphèbe cueille une sorte de fruit, une déesse s'accroupit, un satyre effectue un pas de danse, un démon apparaît, une vestale est chassée de son temple, une Vénus jaillit d'une vasque en plastique. Un grand bateau, gîte penché à quelques mètres, avec à ses côtés la grosse araignée de mer d'un hélicoptère rouge aux vitres brisées. Des poissons aux yeux désespérés passent de l'un à l'autre et s'aventurent jusque dans les cabines du navire que les algues atteignent difficilement. Une rascasse croise une murène dans une coursive engloutie, tandis qu'un Saint-Pierre épineux pénètre dans ce qui fut la bibliothèque du navire. J'arrête là. Quelqu'un applaudit, c'est un bon signe.
Vous pouvez applaudir.
Alors, c'est totalement, enfin, c'est marrant.
Parce qu'après, il y a Michel Drucker, non, dans la page.
Non, mais là, déjà...
J'aime bien quand il y a Michel Drucker.
Ah bon, on peut aller jusqu'à Michel Drucker. Non, mais... Ce qui est rigolo, là, c'est qu'en fait, il faudrait une note de bas de page, parce qu'en fait, c'est une description des...
Déjà, nous connaissez Michel Drucker. Non, je rigole.
Et là, en fait, donc, à grand renfort de comparaison mythologique pompeuse, je décris les scènes les plus célèbres du Loft de 97. Et donc, c'est devenu totalement incompréhensible sous nos yeux. Et après, bah, je cite, parce que c'est quelque chose qui m'a fasciné, c'est aussi l'une des raisons de l'écriture de ce bouquin, c'est l'existence. Alors on les voit maintenant dans les, vous savez, dans les places ou dans les parcs, les endroits où on fait des dons de livres. J'étais à Pont-en-Royan, ils donnaient plein de pelouses sous l'Isère tout à l'heure. Et c'est les bouquins des stars de la télé, genre les mémoires de Philippe Risoli ou des choses comme ça, qui ont été une littérature gigantesque, qui ont atteint des chiffres de vente faramineux et qui me fascinent un petit peu parce qu'une star de la télé grande époque, c'était le néant le plus... Enfin, on avait encore vu récemment, quand est morte, une star de la météo. Star de la météo, enfin bon, apparemment, elle aurait une carrière au cinéma. Mais bon, star de la météo, je me souviens de la mort de Gillo Pétré, on en a parlé pendant des heures, et c'était dingue, alors que c'était juste quelqu'un qui avait présenté la météo sur TF1 pendant 25 ans tous les soirs, qui avait juste dit « nuage, point ». Et puis il avait fait un malaise en direct, et quand il est mort, et qu'il existe une littérature liée à ces figures, je trouve ça totalement fascinant, quoi.
Voilà, donc télé-réalité, si vous voulez relire l'histoire du Loft avec Guy Debord, etc., d'autres influences, d'autres, tout un tas de choses. C'est un roman vraiment, un de tes romans les plus courts aussi, que tu avais voulu écrire comme Stendhal, c'est ça ?
Absolument, en 41 jours, en 42 jours. J'avais un programme hyper, hyper strict. Et ça avait, au début, c'était un peu, les deux premiers jours étaient pénibles, et j'ai eu une idée que quelqu'un était... avait pas la télé parce qu'il est dans un fond de vallée, il capte pas. C'était pas loin d'ici, c'était dans les Baronnies d'ailleurs. Et par contre, il récupère les.
Oui, il y a le Dauphiné libéré dans ce livre, c'est super.
Il récupère les télés 7 jours et il a une connaissance livresque de la télévision parce qu'il connaît par cœur les, il connaît par cœur les programmes de télé 7 jours, ça m'avait amusé. Et ensuite, la bascule, au moment où je me dis, ah, en fait, je suis parti dans le bouquin, c'est que je lui fais passer ce qu'on appelait à l'époque un bac G, donc un bac comptabilité, et il découvre les plans comptables généraux. Et moi, je me souviens, quand j'étais au lycée, il y avait deux catégories d'étudiants, il y avait les étudiants normaux et ceux qui avaient des plans comptables généraux dans leur cartable. Et je savais pas ce que c'était, je sais toujours pas ce que c'est. Et je me dis, ah, en fait, c'est génial, c'est une catégorisation totale. C'est l'enfer de Dante qui croise la comptabilité. Il n'y a pas une activité humaine qui ne peut pas rentrer dans un plan comptable général. Je me dis, en fait, il va rentrer dans la télévision par, non pas par l'image, mais par la maîtrise des chiffres. Et je trouvais ça un peu rigolo.
Puis je tiens quand même à le dire, tu es dans les pas de Stendhal, puisque Stendhal est venu à Saint-Marcellin. Il y a une avenue qui porte son nom, puisqu'il a décrit Saint-Marcellin dans son journal. Dans son journal, et donc c'est pour ça
qu'il en dit du bien, parce qu'il est souvent un peu acide.
Si, si, il en dit du bien, comme toi, j'espère, tu diras du bien de Saint-Marcellin.
J'en ai vu, alors oui, sans aucun doute.
Merci.
J'en ai très peu vu.
7. Voilà, donc une photo d'il y a quelques années, de 2017 à 2020, a été chroniqueur pour la matinale de France Culture, donc les auditeuristes de France Culture pouvaient t'entendre. Enfin, c'est ça, hein, je crois que ta chronique, elle arrivait plutôt en fin de matinale.
C'est ça, et pendant un an, elle repassait même en fin d'antenne à 23h57, je clôturais l'antenne.
Et est-ce que tu peux nous rappeler le principe de cette chronique ? Donc toutes les chroniques ont été éditées dans ce livre sobrement intitulé « La France ». Et qu'est-ce que tu as gardé de cet exercice quotidien qui était quand même une réelle...
Alors, cette photo, c'est pas la même époque, c'est plutôt, c'est 2012. Et 2012, je suis invité au Matin de France Culture et c'est quasiment comme ça que mon histoire avec France Culture commence. C'est qu'à chaque bouquin, ils vont m'inviter et ça se passe bien. Et un jour, Guillaume Erner m'appelle, après m'avoir invité pour...
Guillaume Erner, le présentateur du matinal.
Des matins, qui est encore en place. Je crois qu'il m'avait invité pour le Grand Paris en janvier et il m'appelle en août me proposant de faire une chronique quotidienne en direct. Enfin, c'était très singulier comme proposition. C'est une proposition qui se refuse pas, mais j'avais jamais écrit chronique de ma vie, donc c'était un petit peu l'aventure. Et c'est un exercice, c'est un exercice prodigieux parce que il y a à la fois l'écriture quotidienne et il y a la performance. Donc, alors la performance est catastrophique. Alors, on peut goûter avec le recul ma voix monocorde et mon absence totale d'intonation, parce que les chroniqueurs radio ont toujours tendance à parler comme ça avec des relances. Et moi, c'est j'aime le flan qui est une pâtisserie délicieuse. Et donc, expérience géniale. Alors, c'est un échec. J'ai écrit... Non, c'est un échec, pardon. Je commence ma phrase par la fin. Le projet était quasiment encyclopédique. Je me suis dit, je ne veux oublier aucun objet. Et donc, il y avait... je suis Roland Barthes. J'y ai même pas pensé, mais après coup, je me dis, tiens, c'est Roland Barthes. On me dit, écrit une mythologie. Mais...
Roland Barthes, qui était un intellectuel des années 50.
Qui avait écrit les mythologies...
notamment un texte fameux sur la Citroën. Une voiture Citroën.
Voilà, la déesse, le steak tartare, enfin voilà, des sortes d'objets. Et moi, j'avais l'idée comme ça, faire une sorte d'inventaire complet. Et donc, à chaque fois, je me dis, ah, mais ça, j'ai oublié. Donc là, on voit, il y a une chronique sur Charlemagne, quand même.
Et sur Ikea.
Et sur Ikea, Ikea, plus facile, mais Charlemagne, il fallait la trouver. Et à chaque fois, c'était un peu... c'était vraiment un exercice merveilleux, parce que non seulement je ne savais pas que j'en étais capable, mais comme je l'ai fait 3 ans, je pense que j'ai... était à demi validé, je serai encore chroniqueur, ça va valider tout court, et il m'en est resté un truc génial en termes de dynamique d'écriture qui s'était avéré au moment de l'écriture de je sais plus quel bouquin. Mon éditrice m'avait reproché un début un peu abrupt et m'avait dit ce serait bien de refaire le début machin, et je réalise qu'en fait je maîtrise parfaitement l'écriture de 4500 signes, et donc si on me donne 20 minutes, on m'enferme dans une pièce et j'écris 4500 signes, et ça c'est l'exercice que je l'ai fait 600 ou 700 fois. Et d'ailleurs, je me souviens, ma dernière chronique, je l'avais fait en direct. Enfin, j'avais filmé mes doigts sur le clavier de façon un peu prétentieuse. Et je l'avais fait en 20 minutes. J'étais hyper content. Alors, je l'ai fait rarement 20 minutes, mais c'est d'un coup débloqué. Parce que moi, il y a un côté, j'ai écrit plein de romans, etc. Mais au fond de moi, je suis certain d'être un énorme paresseux qui glande rien. Et les chroniques m'ont quand même débloqué une capacité de travail. Et donc, après, il en est resté l'idée travailler tous les jours, c'est une bonne idée, des choses assez basiques, mais l'exercice était assez prodigieux, et puis ça présentait peut-être aussi un caractère hygiénique, parce que moi j'aime pas dire que c'est des digressions, parce que tout ce que je mets dans mes romans me semble totalement, c'est plutôt des branches d'arbres, quoi, mais ça va dans le sens de la résolution de l'intrigue, enfin de l'énigme que j'aborde, et les chroniques ça me permettait, si j'avais trop d'idées, bah voilà, de les poser de côté, et ça m'arrive d'avoir des idées, de dire « ah c'est con, bonne chronique là », et donc des idées mortes, quoi. Et c'est aussi quelque chose que la chronique m'a appris, c'est qu'une idée n'a pas beaucoup de valeur si elle n'est pas transformée en objet, et il faut le faire assez vite. Une vieille idée, c'est une idée morte, et donc la chronique, comme c'est un truc quotidien, on est toujours sur le vif, donc c'est très agréable.
Et je t'avais entendu aussi sur ce rapport à la création, tu es un grand sportif. Là, je salue Aurélien qui a couru de Pont-en-Royans aux grottes de Choranche, qui a découvert le territoire.
L'autre, Guibert.
Ah oui, la petite grotte, voilà, et qui a fait l'aller-retour. Et quel est ce rôle? Tu fais aussi beaucoup de vélo. Quel est le rôle de la course à pied, du vélo dans les idées qui peuvent venir pour ta création? Et justement, les chroniques, tu avais expliqué que c'était souvent en vélo que te venaient parfois des idées de chroniques.
Oui, les derniers jours du Parti Socialiste, je sais où ça m'est arrivé, et j'ai exactement la route où j'ai eu l'idée. Et pareil, il y a des détails du bouquin, je peux les fixer, mais bon, après, comme le vélo et la course, c'est quand même un sport un peu abrutissant dans la durée, j'ai pas beaucoup d'idées, mais je pense que c'est une pratique très ascétique. Alors, il y a plein de choses, il y a l'euphorie, etc., mais il y a quand même un côté, on se met à moitié nu dans des paysages inconnus, et on est pas au fait au monde, mais on est dans un rapport extraordinaire. Alors même s'il y a plein de gens qui courent, plein de gens qui font du vélo, on est dans un rapport de sociabilité un peu extraordinaire. Voilà. Donc on est habillé, on est costumé d'une façon différente. Et je pense que c'est une assaise dont j'ai bêtement besoin à côté et qui canalise plein de choses, avec aussi cette idée, parce que comme j'ai des enfants, que j'aime pas voyager, que je suis un peu paresseux, et que donc ça me va bien de me limiter à la France, donc j'ai le projet d'aller un peu partout, et je décide mes itinéraires en fonction des endroits où je suis pas allé. Hier encore, je vérifiais quand je pourrais aller à Paray-le-Monial, par exemple. Et donc il y a l'idée quand même de faire quelque chose d'un peu exhaustif, et c'est vrai que je suis un peu obsédé par ça, les voyages d'écrivains, où est-ce qu'ils sont allés, machin, les boucles, est-ce qu'on peut aller partout, etc. Et c'est pas, je le fais pas du tout par chauvinisme, mais c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps à ma disposition, donc la France correspond à peu près à un territoire accessible.
Et ça, je trouve, c'est ce qui est intéressant, c'est ça casse les codes de l'écrivain classique, on va dire un peu dandy, qui fait les salons, etc., très urbain, ce rapport-là au sport. Puis tout ça, tu le chroniques sur Instagram. Donc Aurélien a une page Instagram extrêmement fournie, que je vous invite à suivre, où vous pourrez voir alors tes itinéraires sportifs, mais aussi les os de baleine, beaucoup. L'histoire, donc Aurélien a récupéré des os de baleine sur une plage de Normandie et a essayé d'en reconstituer le squelette. Mais c'est ça aussi que je trouve intéressant dans la manière dont tu t'es construit pendant toutes ces années.
Au début, moi, j'avais un copain qui faisait plein de stories sur Instagram, et j'étais un peu jaloux, et j'en faisais pas moi-même, et finalement, je m'y suis mis, et j'ai adoré, parce qu'il y a l'idée de faire un récit, alors c'est de la subchronique, c'est un récit de la quotidienneté, etc., et puis il faut voir les comptes Instagram d'écrivains, enfin, ne le faites pas, c'est un cauchemar, quoi, c'est promotion, rencontre en librairie, promotion, c'est souvent pas super. Et donc là, il y avait l'idée de fabriquer un personnage volontairement, enfin, je sais pas, c'est fabriquer, d'être beaucoup trop extraverti par rapport aux prérequis habituels du métier. Pas du tout être mystérieux. Et je m'en trouve très bien et je me sens pas du tout mis en danger par cet exercice. C'est plutôt amusant à faire.
Très bien. Diapo 8. Merci beaucoup. Donc, t'es allé, on n'est pas couché, je suis pas Laurent Ruquier, mais je te propose, tu sais, il avait ce truc-là, de proposer, donc je t'ai mis 4, 5, 6, 7 livres, 7 romans, et je te propose d'en choisir un, celui qui te plaît le plus. Donc, il y a un recueil de poèmes de Houellebecq, un livre de SF neuromancien, un des premiers romans de Gracq, un livre d'une sociologue contemporaine vivante, Kaoutar Archi, un Balzac, un Proust, et puis la correspondance de deux des plus grands philosophes du XXe siècle, Adorno et Benjamin.
Bah, les deux seuls que j'ai lus trois fois, c'est les deux du bas. Donc, faudrait choisir entre l'un des deux. Alors Proust, ça fait, je l'ai lu vraiment beaucoup de fois, mais ça fait plus de 20 ans que je ne l'ai pas lu. Illusion perdue, pareil, ça fait une bonne dizaine d'années que je ne l'ai pas lu, mais je l'ai lu trois fois. Compliqué, hein. Faut choisir.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui a lu ni Proust ni Balzac? Pourquoi est-ce qu'ils doivent lire Proust et Balzac, selon toi?
Bah moi, Balzac, c'était une note de Butor qui était déterminante. Il disait, en fait, il faut soit on lit tout Balzac, soit on lit pas Balzac. Bon, là, c'est un peu excessif. Mais Balzac passe d'un romancier qui a des failles et des faiblesses et qui a des problèmes à un romancier génial si on considère que l'unité n'est pas le roman, mais l'œuvre complète, et qu'il est le premier écrivain qui invente une unité supérieure au roman, qui est au-delà du cycle. Enfin, c'est quelque chose de beaucoup plus, parce que le cycle, il y a un côté gros catalogue de romans, ou faire un très gros roman, je sais pas, genre l'Astrée, etc. Balzac, il fait un pas au-delà. C'est-à-dire, il invente un objet qui n'a pas de nom, qui s'appelle la comédie humaine, et qui n'est ni un très gros roman, voilà, qui est quelque chose de différent.
Ça me va, hein.
C'est, ouais, voilà, c'est pour ça, voilà, il y a quelque chose, il y a une innovation littéraire qui a été peu. Alors, il y a les enfin voilà, il y a les outils de ce truc qui sont les personnages récurrents, etc. Mais l'impression, moi, que j'avais eue en lisant Balzac, c'est j'ai qu'une poésie très proche de ma veine début 2000, c'est qu'il avait apposé le premier XXe siècle, c'était une sorte de cruche un peu cassée. Lui, au moins, il avait accroché des anses qui permettaient de la manipuler. Voilà. Et que c'est rare d'avoir une période historique. En fait, c'est incroyablement précieux, en fait. D'avoir, alors avec tous les problèmes et toutes les imperfections du truc, mais d'avoir une période historique qui est manipulable. C'est incroyable. D'ailleurs, je tombais là-dessus dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Il a une phrase géniale sur les règnes, si on est attentif aux objets, le règne entier d'un roi, y compris la physionomie d'une époque, est parfois intégralement concentré dans le marteau d'une porte. Voilà, la comédie humaine est le marteau du 19e siècle. Pardon.
Voilà, et j'en profite pour dire effectivement que le Grand Paris, par plein d'aspects, s'inspire, je pense, d'Illusions perdues de Balzac, qui est aussi un film qui a été récemment adapté au cinéma. Avant de passer à la... Je voulais parler de ça. Le Musée de la Jeunesse, vous connaissez peut-être, c'est une collection, c'est des petits livres noirs. Christine Angot vient de sortir le sien, on en parle beaucoup. C'est une collection de chez Stock. Ma nuit au musée, le principe, c'est un écrivain vient dormir dans un lieu culturel et il en sort un livre. Toi, tu as choisi de dormir au Louvre, dans la salle de Nicolas Poussin, qui était un peintre du grand siècle, du siècle de Louis XIV. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé cette nuit au Louvre ?
En termes de conditions hôtellerie, mal, parce que c'est comme un vol long courrier qu'une climatisation très forte et une lumière permanente, et par contre aucun service de nourriture. Je déconseille. Non, l'idée, c'était... alors, c'est toujours un petit côté, on est un peu des truqueurs, on fait croire qu'on a des idées, mais alors, en fait, c'est parce qu'on n'a pas le choix, on a signé un contrat pour un truc dans une collection, il faut bien qu'on écrive le bouquin. Mais il se trouve que j'avais une matière bizarre, et j'avais filmé ma vie pendant 2 ans avec une petite caméra, et donc j'avais 2 ans d'archives de ma vie, de mes 22, 24 ans, qui correspondent à mon arrivée à Paris. Et je savais que c'était pas glorieux, qu'il y avait rien à en faire sur le plan ciné-visuel, et que bon, je vais quand même les transférer sur un disque dur, on sait jamais. Et comme je me doutais, comme c'était nul, que j'allais le voir pour la dernière fois, c'était un peu une sorte d'adieu à ma jeunesse. Et l'angle que j'ai eu, c'est que Poussin nous apparaît si sage, si romain, si antique, avec des tableaux si classiques, et que en fait, c'était un petit Normand qui était monté à Paris et qui avait été très discret sur ses années d'apprentissage aux Beaux-Arts, enfin, l'équivalent des Beaux-Arts, donc dans des ateliers, etc. Et il fait cette chose que font tous les artistes, de se réinventer, et de nier un petit peu ce que ça a été d'être un jeune artiste, qui est un moment très douloureux de la vie, parce que beaucoup de promesses et très peu de absolument aucune preuve. Une sorte de sentiment, est-ce que j'ai la grâce ou pas, est-ce que je serai sauvé par l'art. On n'a aucune preuve de ça, mais il faut quand même tenter le coup. Et quand ça marche, bon, bah, on a un peu tendance à enjoliver le truc. Et du coup, c'était amusant de confronter Poussin à ça. Donc, de façon très immodeste, j'ai dit, on ne connaît pas la jeunesse de Poussin, bah, je vais lui prêter la mienne.
Bon, en tout cas, le livre est très réussi et vous découvrirez donc les rêveries d'Aurélien au musée dans ce petit livre. Diapo 9. On termine avec, je voulais qu'on termine cette rencontre avec deux de tes, enfin, deux de tes copains, tes meilleurs amis en tout cas, Thomas, avec qui tu as commencé à créer. Et donc, on voit Thomas Lévillane, qui est en haut à droite. Vous avez fait un livre ensemble que j'ai ici. Thomas, il est peintre. Il réalise, donc c'est lui qui a réalisé le tableau en bas à droite. Et en fait, enfin moi personnellement, après je suis pas d'autre, mais je les rapproche parce que Thomas est très attaché à la peinture figurative, voilà. Et là où l'art contemporain pourrait dévier vers d'autres territoires, d'autres terrains, Thomas est attaché à l'objet tableau en tant que peinture figurative. Et je vous invite à découvrir son travail. Disponible en images sur internet. Et donc vous avez fait un livre ensemble. Thomas, il est en haut à droite, il est aussi en bas. Et puis Justine Trier, que j'ai mis avec son je sais pas s'ils sont mariés, son pax. Arthur Harari, qui est également réalisateur, scénariste, qui ont eu donc un Oscar pour le scénario d'Anatomie d'une chute. Et j'ai mis en haut, donc c'est un des premiers films, parce qu'en fait, Justine, elle vient des Beaux-Arts comme Thomas, et ensuite, elle va spécialiser dans le documentaire avant de faire des premiers films de fiction. Et sur place, c'est un film, moi, j'aimerais bien que tu nous en dises deux mots, qui essaie de garder en mémoire une manifestation. C'est en 2007, je dis bêtises.
C'est le moment du CPR, oui.
Du CPR. Sur place, et là, tu as filmé, je crois, avec
Je me suis pris un coup de poing, même.
Quoi ?
Je me suis pris un coup de poing, ouais.
Tu t'es pris un coup de poing ?
Ouais, il y a des rushs que j'ai jamais vus, parce que Justine filmait en haut d'un balcon, nous, on était dans la foule avec Thomas, on filmait, et il y a une vidéo où on me voit me prendre un coup de poing. Je sais pas qui me l'a donné, faudrait enquêter. Donc c'est amusant, parce que pour rebondir par rapport à ce qu'on disait sur Poussin, quand Justine a eu la Palme d'Or, il y a eu quand même, enfin, on n'avait pas de doute que ça allait, mais il y a eu le... Rétrospectivement, c'est comme si notre propre jeunesse était validée, parce qu'on s'était dit, bon, bah, y a plein de choix hasardeux dans la vie, etc. Et c'était comme si, même si on n'avait pas du tout participé au film...
Parce qu'il faut dire peut-être que toi, tu as été le premier quand même. Ton premier roman a énormément marché et a été très, très, très médiatisé tout de suite.
J'ai réussi, c'est ce qui est un coup de bol, j'ai réussi mon entrée, parce que c'est souvent compliqué, j'ai réussi mon premier roman. Enfin, je l'ai réussi dans la mesure où ça m'a permis de changer de vie du jour au lendemain. Non pas que j'ai gagné des millions, mais j'ai pu ne pas faire d'autres métiers que romancier pendant les années qui ont suivi. Ensuite, Justine a fait la bataille Solferino, puis Victoria qui ont marché, et ensuite la palme d'or qu'on fait, que c'était une cérémonie très émouvante. Enfin, on était tous dispersés à de différents endroits, mais qui était très émouvante à regarder. Et un peu égoïstement, je pense qu'on se regardait tous un peu nous-mêmes. Il y avait un côté, non pas elle l'a eu en notre nom, mais c'était par rapport à ce que je disais sur le poussin. On ne sait jamais si on est validé ou pas artistiquement. Et en vrai, on ne sait jamais. Enfin, même quand on meurt, même quand on meurt avec le prix Nobel, on ne sait pas si on est validé artistiquement. Mais on est toujours en quête de signes. Cela en était un. Qu'on avait été, qu'on a, voilà. Donc c'était très émouvant pour ça, et pas du tout empreint de jalousie. Il y avait un côté, en plus ça tue un peu le game, quoi.
Donc tout à l'heure, on vous présentera le film Victoria de Justine Trier. On dira deux mots en début, mais pour pas alourdir, voilà, on projettera le film. Et puis par contre, Aurélien sera là en salle à l'issue de la projection pour ceux qui souhaitent échanger sur le film. Victoria, qui a été, je pense, son grand film qu'il a révélé vraiment au grand public, et qui a révélé aussi une grande actrice, Virginie Efira, par la même occasion, puisque la collaboration avec Justine, c'est ce qui marque son entrée dans le cinéma indépendant, et puis après dans tout un tas de films très très intéressants. Bien, je crois qu'on arrive au bout. Merci beaucoup, Aurélien. Pour ta présence, et puis pour cette masterclass. Je vais laisser la parole à la salle s'il y a des questions. Je ne sais pas si certains dans la salle veulent te poser des questions. On peut faire tourner le micro. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est souvent compliqué le moment des questions.
Ouais, et puis en plus, la personne qui pose la question se fait mal voir par ceux qui en ont marre et en ouais. qu'on est tendu.
Non, mais sinon, on peut se quitter là. Donc, simplement, je précise qu'Aurélien dédicace ses livres que vous pouvez acheter auprès du marque-page. Donc, en fait, on va tourner comme ça. Vous venez, si vous souhaitez acheter des ouvrages d'Aurélien ici, et puis Aurélien sera ici pour signer ses ouvrages, ainsi que Clément, qui signera ses monographies, que je vous invite à regarder et acheter, mais qui sont vraiment très, 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 très réussies sur le travail de Clément Bordery. Juste avant, donc, dehors, devant le cinéma, la ville de Saint-Marcellin vous propose une réception. Une réception, et donc on retournera en salle pour le film à 20h15. On viendra vous chercher. Je propose qu'on lance officiellement la cagnotte, et du coup, je demande à Clément de revenir sur scène, à monsieur le maire, aux élus présents dans la salle, ainsi qu'aux membres du collectif de nous rejoindre pour faire une photo conclusive, et puis après, on pourra tous aller manger et boire. Thank you.